Les êtres humains sont-ils des enfants de Dieu? Pourquoi Jésus fut-il accusé de blasphème quand il déclara être le Fils de Dieu? Ce sont les questions que nous discuterons aujourd'hui dans la suite de nos études de l'Épître aux Hébreux, comme d'habitude dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces programmes d'études de la Bible sont émis internationalement et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore en coopération avec les amis de partout.
Merci Thomas. La question que tu as posée au sujet des hommes comme enfants de Dieu est suggérée par Paul au chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux, verset 10. Voudrais-tu nous lire ce verset?
Certainement. Il dit « Il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener plusieurs enfants à la gloire, consacra l'auteur de leur salut par les souffrances. » Pierre, il semble clair que celui à qui il est fait allusion dans ce texte comme l'auteur de notre salut est Jésus. Mais qui sont les enfants qui seront amenés à la gloire avec lui?
Ce sont les vrais disciples de Jésus, la classe appelée hors du monde pendant le présent âge pour suivre ses traces dans le sacrifice et la souffrance. Il leur a été promis que s'ils sont fidèles, ils vivront et régneront avec lui. Ce sont les enfants de Dieu dont il est parlé dans le Nouveau Testament.
Mais Pierre, tous les hommes ne sont-ils pas les enfants de Dieu? Je pense en ce moment à l'expression « la paternité de Dieu et la fraternité des hommes ».
Cela est naturellement un autre point de vue. Paul, dans son sermon sur la colline de Mars, dit aux Athéniens que Dieu a fait tous les hommes qui habitent sur la terre d'un seul sang. Il s'agit ici de la terre entière, et c'est alors qu'il explique que Dieu donne à tous la vie et la respiration.
Et si je me souviens bien, Luc fait allusion à Adam comme fils de Dieu.
C'est juste. Et comme fils de Dieu, l'homme fut créé à l'image divine, non pas physiquement, mais moralement, capable de raisonner et d'apprécier les choses les plus hautes de la vie. Le monde athée d'aujourd'hui le nie, affirmant que l'homme n'a pas été créé directement par Dieu, mais qu'il est le produit de l'évolution.
Cependant, il semblerait parfois que la fraternité humaine n'est pas très profondément enracinée. Surtout maintenant où l'on craint que la moitié du monde ne détruise l'autre moitié ou cherche à le faire.
Cela, Thomas, vient du fait de ce qui s'est passé jadis au jardin d'Éden. Le fils de Dieu, Adam, transgressa la loi de son père et fut condamné à mort. La faveur du Créateur lui assurait la vie qui lui fut retirée. La loi de la lutte pour l'existence prit sa place, et depuis lors, l'égoïsme a dominé dans les affaires humaines.
Il y a naturellement de nobles exceptions.
C'est juste, il est probable que le plus grand nombre des hommes préféreraient être bons et généreux. C'est parce que l'humanité a marché pendant plus de 6000 ans sur ce que Jésus appelle la route large qui mène à la destruction, que les hommes gardent encore un peu des éléments de la ressemblance divine qui leur a été donnée à l'origine.
Pierre, dirais-tu que les hommes ont cessé d'être les enfants de Dieu à cause de la transgression d'Adam?
Adam a perdu le privilège de fils. C'est pourquoi il a été chassé du jardin d'Éden, condamné à mourir. Depuis lors, Dieu n'a pas traité les hommes comme ses enfants. Mais Dieu les aime encore, et c'est pourquoi il a envoyé son Fils bien-aimé, Christ, afin qu'il meure pour les hommes. C'est par Christ que la race humaine sera réconciliée à Dieu, et que les privilèges de fils lui seront rendus.
Est-ce que ceci est compris dans le témoignage prophétique de la restitution de toutes choses ? Qui, selon la déclaration de Pierre, a été annoncé par la bouche de tous les prophètes de Dieu, dès les temps anciens.
Oui, et cet aspect du plan de salut de Dieu s'accomplira pendant le millénium, le temps du royaume messianique. Alors, tous les hommes obéissants et de bonne volonté seront rendus à cet état béni de fils, dont Adam avait joui avant d'avoir transgressé la loi de Dieu.
Mais Jésus était vraiment fils de Dieu pendant qu'il était sur la terre, n'est-ce pas?
Oui. Et quand il fut baptisé par Jean-Baptiste, une voix se fit entendre du ciel, disant à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Mais pourquoi Jésus fut-il si amèrement persécuté parce qu'il se disait être le fils de Dieu? Apparemment, l'idée d'être fils de Dieu était beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Oui, c'était bien le cas. Les Israélites se considéraient les serviteurs de Jéhovah, non ses fils. Mais Jésus institua un nouveau point de vue à ses disciples. Il était lui-même le Fils de Dieu, et il enseigna aux disciples de considérer Dieu comme leur Père. La prière qu'il leur enseigna commence par ces mots. « Notre Père qui êtes aux cieux. »
Pierre, comment est-ce qu'un pécheur éloigné de Dieu peut redevenir l'un de ses enfants?
Le premier pas, c'est le repentir, inspiré par la foi dans notre Père céleste et l'appréciation de son amour. L'acceptation de Christ comme Rédempteur et Sauveur personnel est aussi essentielle. Puis, il faut se consacrer entièrement au Seigneur pour l'accomplissement de sa volonté.
Parfois, on entend dire que tout ce qui est nécessaire pour devenir chrétien ou enfant de Dieu, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais d'après ce que tu dis, il y a plus que cela.
Ce que dit la Bible est la chose importante. Paul écrit aux disciples de Philippe. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
Ce qui semble nous ramener à notre point de départ de l'Épître aux Hébreux. Paul fait-il allusion à la souffrance du chrétien comme étant pareille à celle de l'auteur de notre salut, qui fut rendu parfait par la souffrance?
Oui, je le crois.
Pierre, que veut dire Paul quand il parle de Christ comme l'auteur de notre salut? Quel salut?
Au troisième verset du deuxième chapitre aux Hébreux, Paul parle d'un grand salut qui a été premièrement annoncé par le Seigneur Jésus-Christ.
Quel est ce grand salut?
C'est la façon de Paul de décrire ce à quoi il fait allusion au chapitre 3 des Hébreux comme la vocation céleste. Il dit « Mes frères qui êtes saints et qui avez part à la vocation céleste ». C'est l'occasion de salut offerte aux fidèles consacrés de Christ durant l'âge de l'Évangile.
Pierre, nous avons déjà appris par Jésus dans le livre des Actes et les épîtres précédentes de Paul que les disciples de Jésus, pendant cet âge, ont part à ce qui est décrit comme un « haut appel ». Ils sont invités à souffrir et à mourir avec Jésus afin qu'ils puissent vivre et régner avec lui.
Étonnant, cette pensée n'est pas particulièrement nouvelle pour les chrétiens. La plupart des chrétiens, je pense, chérissent l'espoir du ciel. Ce que l'on oublie souvent, c'est que ceux qui atteindront une récompense si glorieuse auront une fonction à remplir. Ils seront rois avec Christ pendant 1000 ans et accompliront l'œuvre de restauration à la vie des hommes sur la terre.
Le but à atteindre en vaut certainement la peine, ne penses-tu pas? Pierre, je remarque que lorsque Paul dit « Mes frères qui êtes saints et qui avez part à l'appel céleste », il ajoute « Considérez bien Jésus-Christ qui est l'apôtre » est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Cela veut-il dire que les disciples de Jésus sont les membres d'un apostolat dont Jésus est le souverain sacrificateur?
Oui, c'est juste. Dans cette épître adressée aux chrétiens hébreux, Paul fait allusion au rite religieux d'Israël, tel qu'il fut établi par Moïse en rapport avec le tabernacle érigé dans le désert et le service des prêtres. Il en parle comme étant l'ombre des bonnes choses à venir.
Pierre, si je me souviens bien, dans la première famille ecclésiastique d'Israël, le frère de Moïse, Aaron, était le sacrificateur, et ses fils étaient ses aides, n'est-ce pas?
Oui, et Paul montre que dans certains services, Aaron représente Jésus, et ses fils représentaient les disciples de Jésus, ceux qu'il appelle frères, et qui ont part à la vocation céleste.
Quel était exactement le travail des prêtres dans Israël ancien?
Ils accomplissaient le service du tabernacle, offrant des sacrifices et répandaient sur le peuple les bénédictions basées sur ces sacrifices.
Ils offraient divers animaux en sacrifice, n'est-ce pas?
Oui, mais Jésus s'offrit lui-même, et les frères considérés comme saints s'offrent également, invités à suivre ses traces. Dans l'Épître aux Appelés de Rome, Paul écrit « Je vous en conjure donc, mes frères, à présenter vos corps en sacrifice vivant. »
Si je le comprends bien, les bénédictions de vie que Dieu a promises au peuple en général ne seront répandues que lorsque cette œuvre de sacrifice sera accomplie. Est-ce bien cela?
C'est ainsi que la Bible présente les choses.
Cela explique pourquoi le monde n'a pas encore été converti et pourquoi le message de l'ange qui disait « paix sur la terre » ne s'est pas encore accompli. Si je me souviens bien, Pierre, dans une autre épître, Paul parle de toute la création gémissant et souffrant en commun, attendant la manifestation des fils de Dieu, dont parle Paul quand il dit que Jésus est l'auteur de leur salut éternel.
Oui, et ceci montre à nouveau le dessein de Dieu de les appeler à quitter le monde pour être fils de Dieu et les frères de Christ. ce qui veut dire qu'ils seront les canaux de bénédiction pour toute l'humanité au temps du royaume.
Il y a un certain passage qui parle du monde qui attend le lever du soleil, et je suppose que nous pourrions dire que dans le royaume de Dieu, le Christ et ses frères amèneront le lever du soleil.
C'est juste. L'une des prophéties décrit Jésus comme le soleil de justice, etc. Certainement, Jésus introduira un matin sublime.
C'est mon avis, Pierre. Et je me souviens d'une autre promesse qui dit que tandis que les pleurs durent pendant la nuit, la joie vient avec le matin. Et mes amis, l'article « L'épître de Paul aux Hébreux » attire l'attention sur les nombreuses promesses se rapportant au magnifique matin de joie qui poindra bientôt sur le monde comme résultat de l'établissement du royaume de Christ. Demandez votre exemplaire gratuit et profitez de ces pages pleines d'espoir. La Bible parle d'un temps où le désir de toutes les nations viendra. Quand ce temps sera-t-il et comment sera-t-il amené? Pourquoi, après plus de 19 siècles d'efforts chrétiens, le monde n'est-il pas converti? Qu'est-ce qu'un ange? Et les êtres humains deviendront-ils des anges? Paul parle de l'Église des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Qui constitue cette Église et pourquoi? Comment savons-nous si notre nom est inscrit dans les cieux? L'article « L'épître de Paul aux Hébreux » dans son examen de cet intéressant livre du Nouveau Testament répond à ces questions et à bien d'autres d'un intérêt vital pour vous. Cet article est le 8e d'une série qui passe en revue tous les livres de la Bible. Ils paraissent dans la revue Aurore. Demandez maintenant un exemplaire gratuit. Demandez le petit livre des Hébreux. Le seul mot « hébreu » est tout ce qui est nécessaire. Ce programme vous est présenté par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore. Nous serons avec vous la semaine prochaine. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.